Libre radio noctambule, au devers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages, se dissimule brasier, tumulte et sédition. Libre radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org.
Qui sont les personnes qui viennent encore à la bibliothèque et comment faire pour que d'autres populations reviennent ou viennent, découvrent les bibliothèques?
Alors, ça c'est un débat qui fait rage depuis longtemps au niveau des bibliothécaires. Il y a déjà une sorte de... Maintenant, on essaie de définir la bibliothèque en tant que troisième lieu. Mmh. Alors, c'est-à-dire qu'il y a la maison, il y a le travail, et puis la bibliothèque devrait s'inscrire comme troisième lieu, donc c'est un endroit où en fait on va pour faire autre chose que d'être à la maison et travailler. Donc c'est un endroit en fait où on va pas forcément pour lire des livres ou pour emprunter des livres, mais pour profiter de l'espace, pour avoir un accès à Internet, pour être au calme. Enfin, pour maintenant il y a beaucoup d'animations, des formations. Enfin, la bibliothèque pour moi elle est publique hein, toujours.
Oui,
hein.
Oui.
Elle est en train de gentiment évoluer plus vers un centre culturel que... Alors ça, c'est de nouveau hein, mon avis personnel. Et puis, donc, on doit un peu redéfinir à comment on veut quantifier, en fait, ce qu'on appelle les indicateurs en bibliothèque. C'est-à-dire que maintenant, on va se baser sur le nombre de prêts et le nombre d'inscrits, enfin, voilà, il y a plein d'indicateurs qui peuvent être pris en compte pour définir la fréquentation d'une bibliothèque. Mais ces indicateurs, ils sont plus à jour. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ben, voilà, les gens ne vont plus à la bibliothèque seulement pour prendre des livres. Mm-hmm. Ils vont aussi pour profiter de l'espace.
D'accord.
Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas forcément être... qui ne sont pas encore vraiment quantifiées. Ben, les gens à la bibliothèque, qu'est-ce qu'ils y font? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Alors, à moins qu'on soit derrière chaque usager, on ne peut pas forcément s'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi un peu, quand on parle de fréquentation de bibliothèque aujourd'hui, il faut être un peu conscient aussi qu'on ne peut plus se baser sur les mêmes...
Comme tu le disais, les mêmes indicateurs.
Voilà.
Puis, ouais, tout à fait.
Après, au niveau de la population qui fréquente, je pense que chaque quartier a vraiment son tissu. Et puis, donc moi, je ne peux parler que de celle des Paquis, c'est la seule que je connais. Mais voilà, on a la chance au Paquis d'être entouré d'écoles et d'avoir un directeur qui est très impliqué en fait avec la bibliothèque et qui vraiment travaille beaucoup sur la lecture à l'école. Donc on a toutes les classes qui viennent toutes les semaines, tous les jours. Enfin, on travaille avec ses élèves. Donc il faut dire que c'est des enfants en fait depuis peut-être la 1P ou la 2P. Ils vont venir en tout cas au moins une fois, si ce n'est pas plus, pendant leur cursus scolaire au Paquis, une fois à la bibliothèque. Il y a beaucoup de choses aussi. C'est un quartier très populaire. Il y avait la Source Bleue qui accueille les mamans des enfants migrants. J'en oublie, mais après, en hiver, forcément, il y a un autre public. Hein, il y a tous ceux aussi qui viennent juste chercher des places au chaud. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut... Parfois, on a des gens dans des situations, pareil. Hein, parfois, on ouvre le samedi et puis à 13h, on a des gens bourrés qui arrivent. Et puis, parfois, ils sont très sympas. Parfois, ils sont un peu agressifs. Parfois, ils peuvent être un peu relous aussi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est aussi... Mais ils font partie du public et on a un service public ouvert à tous. Je pense qu'on est un des rares lieux, en fait, où il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de consommation. On n'attend rien, juste à part d'être respectueux les uns envers les autres. Et puis voilà, mais on ne pourra jamais mettre dehors quelqu'un qui est juste posé à une table ou qui fait sa sieste ou à partir du moment où ils ne vont pas trop fort.
Oui. Mais ça en dit long également sur les infrastructures qui existent dans la ville, où très souvent, effectivement, on est enjoint à consommer. C'est-à-dire que lorsque l'on accède dans un endroit, l'entrée des fois est payante elle-même, et quand elle est libre, souvent on oblige les gens à consommer, et que c'est une règle que l'on peut évidemment rejeter cette personne si elle ne le fait pas. Et du coup, si elle trouve refuge dans une bibliothèque, eh bien tant mieux, finalement, c'est une zone hors consommation, justement. Alors, on a bien compris pour la population. Maintenant, je voulais t'interroger sur les collections, sur la collection même. Alors, qui trouve-t-on dans une bibliothèque comme document? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a des livres, mais pas comme. Alors, c'est quoi le reste? Est-ce qu'il y a des journaux, des publications, des périodiques, des BD, des films, des DVD? Je ne sais pas, tu vas nous répondre. Combien, hein, quelle est la quantité de choses en général qu'une bibliothèque met à disposition des gens? Y a-t-il aussi un rôle d'archivage là-dedans, donc de documents qui sont peut-être moins mis à disposition parce qu'ils sont plus fragiles ou plus précieux? Et pour combien de temps? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certainement un renouvellement, puisque on sait que l'industrie du livre est florissante, que les livres, notamment les romans, continuent d'être édités. Donc à un moment donné, il faut y créer, ou comment est-ce qu'on fait un tournus? Comment les bibliothèques s'organisent? Alors, on va dans l'ordre. Ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve dans la collection a priori?
Alors, tu as presque tout dit, mais... Alors, on a les romans, donc romans-fiction, on a les documentaires. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur de la vulgarisation et puis on essaie de couvrir tous les domaines encyclopédiques. En tant que bibliothèque, on essaye aussi d'être assez, on va dire, impartial, enfin...
D'accord, de couvrir tout le spectre.
Et puis, on n'est pas politisé, on ne doit pas faire de la censure non plus. Enfin, on essaie vraiment de... Ce n'est pas toujours évident, mais voilà, on essaie de naviguer sur... de représenter, en fait, le plus d'idées possibles. Voilà pour les documentaires. Après, on a évidemment tout ce qui est littérature, théâtre, poésie... on a aussi beaucoup de langues. Donc là, je suis toujours en bibliothèque publique, de préciser. Ouais. Des livres aussi en langue étrangère, ça c'est très important. Les bandes dessinées, ça aussi, c'est une collection importante et qui marche très bien. La presse. Donc alors, pour faire un petit lien avec tout à l'heure, on parlait de la mort du livre, mais c'est que ceux qui vont mourir en premier... C'est la presse écrite aujourd'hui. Alors là, vraiment, ça se ressent.
On constate que c'est elle qui est en danger avant tout.
Ouais.
Plus que le livre.
Exactement.
J'ai compris.
Donc voilà, donc on a la presse quotidienne et après d'autres magazines. Les livres lus.
Il y a des périodiques, typiquement, tu vois, le Monde Diplo ou les magazines comme Hérodote ou des choses comme ça. Est-ce que les bibliothèques s'abonnent? Et puis.
Alors en fait, chaque bibliothèque. Peut finalement choisir à quoi ils veulent s'abonner. Donc chaque année, en fait, on doit renouveler les abonnements. Ouais. Et puis, c'est le moment où on se pose la question. Tel magazine, il est sorti une fois dans l'année, ça n'intéresse pas trop.
Alors, comment choisit-on ça? Je vais poser la question après, évidemment. Parce que est-ce que c'est justement le nombre de lecteurs qui vont le lire, ou est-ce que c'est une qualité qu'on prêterait au magazine? Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'effectivement, si on dit on va prendre Le Monde Diplo et Politis et Hérodote, eh bien, alors ça c'est une chose dont on choisit ça, mais après peut-être faut-il encore les mettre en avant de manière à ce que les gens y accèdent quand même, parce que ce sont des revues peut-être des fois un petit peu compliquées et tout ça. Alors, mais ce sera pour tout à l'heure ça.
Ouais. Donc on en était à ce qu'on trouve à la bibliothèque. Voilà. Les magazines, ça on a dit. Alors là maintenant on a aussi les DVD.
Ok. Ça fait maintenant partie d'une collection de bibliothèques.
Ouais, et puis qui forcément marche à fond.
Donc ça, c'est plus des films ou des documentaires, ou il y a un peu de tout?
Il y a de tout. Alors ça va du petit film d'auteur sombre et obscur que personne n'a jamais vu, au blockbuster, des documentaires de nouveau encyclopédiques. Maintenant aussi, avant c'était que la Cité qui pouvait, vu que c'était la plus grande, mais maintenant on a aussi les séries.
Les séries télé.
Ça
des dessins animés également.
En collection jeunesse, on a effectivement on a les dessins animés, la Panthère Rose, tous les Walt Disney, les Miyazaki,
D'accord, Mary Poppins, je veux.
Pardon. De tout, on me l'a demandé hier. Après, on peut aussi trouver... ça, c'est aussi des choses qu'on nous demande énormément. C'est tout ce qui est apprentissage de langue, méthode de langue.
Okay.
Donc ça, c'est aussi des documents qu'on fournit. Permis de conduire.
Ah ouais.
Voilà, tout ça. D'accord. Et puis, bah, il y a ce grand débat aussi, les jeux vidéo. Il y a des bibliothèques qui commencent à en prêter. Il y en a que ça fait très longtemps. Il y en a qui ont commencé, puis qui ont enlevé. Et ça aussi, hein, il y a des groupes de travail, ça débat. Parce que alors, pour il y en a, bah, ça fait partie de la culture. Pour d'autres, ça n'a pas sa place en bibliothèque. Donc, c'est très intéressant, le jeu vidéo en bibliothèque. Et j'espère que ça va commencer chez nous aussi.
En tout cas, ce qu'il y a de clair et d'intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, les lignes bougent et que le débat est nourri, il est effervescent au sein de la bibliothèque. Ça, c'est
oui,
le principal. Alors, c'est pas du tout, ouais, comme on disait tout à l'heure, un endroit, des fois, tu sais, comme tu l'as dit, qu'on considère un peu poussiéreux ou apaisé. Bien au contraire, il y a des confrontations qui ont lieu, qui ont cours, et des enjeux qui sont en train d'être discutés. Et ça, je trouve que c'est quoi qu'il en soit, c'est intéressant que ça ait cours. Alors, pour en revenir à la collection,
ouais.
À moins que je t'ai interrompu, tu voulais encore dire ou
non,
fait
mais je crois que
tour, ouais.
j'ai fait le tour. Hein, ouais.
Alors, la question qui allait avec, c'était, voilà, en général, quelle épaisseur, quelle quantité mettons à disposition? Est-ce qu'il y a des choses, un petit peu des standards que l'on considère être ce qu'il faut faire dans une bibliothèque? Et puis, comment est-ce qu'on assure un roulement avec ce qui arrive, les achats, les nouveaux achats?
Alors, donc déjà, en bibliothèque publique, nous, on n'a pas une vocation de bibliothèque patrimoniale.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne doit pas conserver les livres. Enfin,
voilà, l'archivage, ouais. c'est pas...
Il y a d'autres bibliothèques qui s'en chargent. Uh-huh. Nous, ce n'est pas notre mission et on ne pourrait pas le faire parce qu'on n'a pas assez d'espace pour le faire. Après, je veux dire, chaque bibliothécaire a sa sensibilité. Et moi, quand je suis arrivée au Paquis, une bibliothécaire qui était très conservatrice, et donc on a un fonds, une réserve avec plein de qu'elle a considéré que c'était des livres indispensables dans la littérature jeunesse, hein. Tout là c'était vraiment jeunesse, donc ça après ça c'est mon avis personnel, on essaie de le faire le moins possible, parce que on avait essayé de mettre en place, alors d'ailleurs j'avais oublié de mentionner ça dans la collection, mais il y a les albums pour les enfants. Donc ça, en collection jeunesse, ça prend énormément de place. C'est peut-être ce qu'on a le plus et qui est le plus demandé. Donc l'album, c'est toujours difficile à le définir. Il y a de l'image, il y a du texte. L'image est plus présente que le texte. Il y a vraiment un lien très fort entre l'image. Enfin, mais ça peut être... Il y a des albums pour les tout-petits. Mais après, il y a des albums qui peuvent parler aux adultes, avec plusieurs niveaux de lecture. D'accord. Et souvent, c'est des objets très artistiques, hein, parce qu'il y a vraiment un travail entre l'illustration et le texte. Hein. Okay. Donc voilà, mais typiquement, pour ces albums où on a ces bacs qui débordent, et à un moment, il y avait vraiment la pratique généralisée de faire des tournus, c'est-à-dire on prenait une partie, on la mettait au sous-sol, ou ailleurs, hein, et puis on disait, chaque année, on va les remonter, puis on redescend d'autres, puis on va faire des tournus.
Voilà.
Simplement qu'en fait, en tant que bibliothécaire, on a énormément de choses à faire, et puis que je pense que le tournus, en tout cas dans ma bibliothèque, ça va faire à peu près 10 ans qu'il n'est pas remonté, parce qu'on n'a pas de place, et puis qu'on n'a pas forcément le temps, ça prend quand même du temps, hein, de faire ce déménagement. Et du coup, maintenant, on essaye vraiment chaque année de faire ce qu'on appelle un désherbage en bibliothèque.
Redis-moi.
Un désherbage.
Un désherbage, d'accord.
Donc le désherbage, c'est un mot très poétique. c'est-à-dire, en fait, analyser la collection et puis, en fait, enlever les livres qui
vous paraissent.
Alors, on ne désherbe pas comme ça, celui-là, il est joli, il est moche. Il y a une politique de désherbage. Hein, chaque bibliothèque peut faire sa propre politique, ses propres critères. Et puis, on se base, en fait, sur ces critères pour ensuite retirer les livres de la collection.
Je comprends. D'accord.
Donc ça, c'est quelque chose que, dans l'idéal, on va dire, on essaie de faire chaque année. Ce n'est pas toujours facile, c'est quelque chose qui prend du temps. Hein. Il faudrait avoir chaque livre en main et puis le regarder.
Ça se fait, j'imagine, en équipe, donc il faut regrouper les
livres. Voilà, c'est ça. En fait, l'acquisition du livre, le choix du livre et le désherbage ne devraient pas se faire tout seul.
Oui, d'accord.
Parce que typiquement, on essaie toujours aussi, si moi toute seule je choisis tous les livres de la bibliothèque, je vais finalement, même si on essaie d'être très objectif, mm-hmm. on va toujours aller vers un petit peu ce qui nous plaît plus. D'accord. Alors que si on est plusieurs à faire le choix, ben on va représenter, on a plus de chances d'être plus large en fait dans les documents qu'on va proposer.
Ok. Donc ça, c'est très bien. Et alors justement, on arrive à ça, à cette question-là. Comment est-ce qu'on choisit un livre dans la, voilà, dans les nouvelles acquisitions, est-ce qu'on se dit, il nous manque ça ou ce roman-là, eh bien, c'est un sujet inédit. J'imagine que les sujets inédits, on en a de moins en moins parce que, eh bien, évidemment, dans l'histoire de la littérature, plus on avance, plus on a touché à tout. Y a-t-il des collections qui, tout d'un coup, apparaissent et qui sont d'une qualité particulière? C'est l'esthétique, c'est le contenu, c'est le sujet, l'actualité peut-être qui permet que l'on oriente certains choix de livres au détriment d'autres? Comment ça se fait?
C'est un peu tout ça. Et
c'est un peu tout ça,
oui. Alors,
mais ça se fait en équipe, a priori.
Oui, ça se fait en équipe. Alors, en fait, on est à... dans le monde de l'édition, chaque semaine, il y a un livre, enfin, ça s'appelle un magazine qui s'appelle Le Livre Hebdo et qui recense toutes les parutions.
D'accord, il y a ça.
Ouais. Donc ça, chaque semaine, on le reçoit. Alors ça, c'est comme ça qu'on fonctionne notre bibliothèque municipale. Je ne sais pas forcément dans les autres... voilà. On le reçoit et puis ben, ça va reprendre en fait la classification décimale. Donc ça va présenter les livres par thème. Mais parfois, ça peut être des nouveaux livres ou juste des rééditions. Donc les rééditions, elles sont quand même signalées. Après, ben, voilà, moi par exemple, je vais prendre ce livre hebdo, je vais regarder bon, ben, voilà, le thème des animaux. Je vais dire, bon, ben, c'est peut-être pas des choses qui fonctionnent. Il y a des domaines où ça sert même plus à rien, genre tout ce qui est cinéma, oui. Bibliographie, les gens n'empruntent plus. Sur la musique, d'accord. Typiquement, ah, aussi, ouais. Ça, c'est des domaines.
Obsolète,
on ouais, à moins d'avoir vraiment, je crois que l'année dernière, il y avait la biographie de Bruce Springsteen qui était sortie. Okay. C'était quand même un petit événement. Bah, ça, typiquement, voilà, on va se dire, bah, on va l'acheter, mais je ne sais pas, moi, un livre sur la rétrospective d'Indochine, bah, non.
C'est vrai.
Donc ça, c'est des domaines où on sait que ça ne sort plus. La cuisine,
c'est tout le temps, bien
ça, sûr. Ça sort toujours. Voilà, il y a des domaines comme ça, on sait qu'on se dit, bon, ben, ok, c'est... En plus, il y a toujours des nouvelles modes. Là, par exemple, c'est le véganisme. Donc, toutes les semaines, on va avoir des nouveaux livres.
Donc, une bibliothèque est à la mode. Elle peut être à la mode.
Ben, elle doit.
Elle doit être à la mode.
Elle doit être à la mode, évidemment.
Des grandes polémiques, alors, je ne sais pas si ça fait polémique dans le monde de la bibliothèque, mais des grandes polémiques telles que Molière a-t-il écrit ses livres ou est-ce Corneille qui les a écrits ou l'inverse? Est-ce que ça, il y a à ce moment-là des parutions un petit peu spéciales et les bibliothécaires sont à l'affût et disent « Ah, on entend, il y a un peu le buzz hein, voilà, autour de ça, donc on va aller chercher ces bouquins-là et essayer de mettre à disposition pour le débat public, pour l'implémenter, des livres autour de ce sujet-là. »
Alors, la bibliothèque et le bibliothécaire doit de toute façon être dans l'actualité. Ça, c'est, c'est même, ça fait partie de on va dire des qualités ou de ce qu'on attend d'un bibliothécaire, c'est qu'il faut être curieux,
ouais.
Et il faut se tenir au courant. Ça, c'est la base. Donc, c'est vrai qu'après, chaque bibliothèque se sent libre bah, de s'approprier un sujet et puis bah, de se dire bah, ça va être l'opportunité de sortir des livres de notre collection, de pouvoir les mettre en avant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et tout le temps en bibliothèque.
D'accord. Donc, des coups de cœur également, des choses comme ça. Tout ça.
Voilà, ça peut être de ressortir aussi, bah, de mettre en avant ce qu'on fait, de mise en avant de notre fonds, montrer, bah, regardez ce qu'on a. Parce que quand ils sont rangés dans les rayons, finalement, ils perdent la visibilité. Les livres qui vont sortir, c'est ceux qui vont être exposés. On ne peut pas exposer tous les livres.
Exactement.
Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'expos thématiques et on se base sur l'actualité, souvent, pour le faire.
Ouais. Y a-t-il, question obligée, des livres tabous, quand même? Je te pose cette question-là parce que récemment, le sujet est arrivé dans le domaine public, a surgi comme ça, de cette fameuse réédition de Mein Kampf d'Adolf Hitler, avec des détracteurs qui disaient non, il faut que ce livre soit interdit, que personne ne puisse y accéder, et d'autres personnes qui disent non, au contraire, mettons-le peut-être pas en avant, mais ayons ce document sur la table pour pouvoir en décoder les contenus. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des livres tabous et comment traiteriez-vous cette proposition-là si elle vous était faite à la librairie des Paquis concernant le livre de Mein Kampf?
Alors, en fait, historiquement, dans les bibliothèques, il y a une section qui s'appelle l'enfer.
C'est génial.
Et c'est là où en fait sont rangés les livres qui, pour X ou Y raison, ne devraient pas être en libre accès. Alors, ça peut arriver en bibliothèque scolaire, ben, ça peut être des livres pour les plus de 16 ans ou avec des images qui peuvent être choquantes, mais que, ben, on les a quand même. Donc, c'est la section enfer.
D'accord, donc il y aura une section dédiée. Ouais.
Il y a une section dédiée enfer. Après, ce qui est très marrant, en fait, avec ces, enfin, marrant, avec ces livres tabous, c'est que finalement, ça peut changer d'une culture à un autre, d'un pays à un autre.
Et des époques.
Bah, typiquement, genre aux États-Unis, il y avait des bibliothèques où le petit chaperon rouge était interdit parce que, en fait, dans certaines versions, le petit chaperon rouge avait une bouteille de vin dans son panier.
Il y a des versions même pires que ça.
Donc, petit chaperon rouge, il y a eu beaucoup de polémiques aussi autour de Tintin au Congo.
Oui, oui,
qui,
tout à fait.
Voilà, dans certaines bibliothèques étaient considérées comme
racistes.
Ouais,
sachant qu'Hergé aussi avait des accointances. Walt Disney, pareil.
Mais après, typiquement, nous, à l'école, on avait fait une sorte de débat ou de dissertation sur ce Tintin au Congo en disant est-ce que ça a sa place ? Oui, non. Si on le mettrait, parce que c'est aussi représentatif d'une époque, d'une pensée, et puis est-ce que la censure, c'est franchement la meilleure façon, enfin voilà. Après, de nouveau, on peut reprendre chaque livre et puis en débattre. Mais alors typiquement le Mein Kampf, je sais que en tout cas c'est un livre qui est disponible mais sur demande.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est peut-être un universitaire qui fait sa thèse ou quoi que ce soit, mais il ne va pas être disponible dans les rayons en libre accès. C'est plutôt des livres qui sont en fait sur demande, mais ils ont leur place en bibliothèque dans cette jolie petite section nommée Enfer.
Mais admettons qu'un jeune adolescent de 15 ans ait bonnet, c'est-à-dire crâne rasé, bomber, ses signes extérieurs, disons, suspects, viennent et demandent ce bouquin-là. A priori, vous le lui fourniriez ou pas ? Je te demande ça parce que je me demandais également qu'est-ce qu'on fait avec... Effectivement, tu l'as très bien dit tout à l'heure, les époques sont les époques et il faut effectivement à chaque fois contextualiser les choses, mais des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Y a-t-il certains livres qui, ayant été écrits dans la meilleure des intentions pour dénoncer certaines choses à une époque, eh bien, à l'aune de ce que l'on vit aujourd'hui, pourraient être considérés comme des livres, par exemple, sexistes ? Je sais qu'il y a par exemple certains films qui dénoncent des... Alors voilà, je vais le citer, le film La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky, qui est un film militant, qui dit la télé soustrait les ados de leurs devoirs, hein, parce que dans le film, quelques professeurs qui vont asperger les antennes d'un produit qui ne permet pas à la télé d'être diffusée, donc ça les remet au travail. Mais tout au long du film, eh bien, il y a des représentations des femmes qui sont des représentations sexistes, parce que c'était la représentation de l'époque, typiquement la femme qui est une serveuse et puis qui est un peu grosse et à laquelle on peut claquer les fesses et des choses comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que, c'était pour reprendre cet exemple du jeune adolescent qui vient et qui dit « Oui, mais moi, j'ai envie de lire ce bouquin-là. » Est-ce que, du coup, on dit en même temps, on ne peut pas lui interdire ou, donc, on lui rend accessible cette chose-là, sachant que lui va certainement l'utiliser pour des situations délicates, ou est-ce qu'on lui en interdit l'accès ?
Alors, c'est une bonne question. Enfin, comme je n'ai jamais été confrontée,
durant ta carrière, oui, mais ça peut peut-être venir.
Mais j'ai souvenir en tout cas que je ne sais plus si c'était dans une bibliothèque universitaire ou ailleurs, où pour y accéder, par exemple, il fallait avoir un mot de son professeur qui disait que c'était pour
le cadre.
Voilà, après, c'est clair que les mœurs, la société, elle évolue et que parfois on a des livres qui ne sont plus vraiment adaptés. Alors comme on a énormément de livres, parfois quand on fait ce travail de désherbage, on va tomber dessus, puis on va se dire oulala, c'est n'importe quoi, et puis c'est peut-être, ça fait 20 ans qu'il est dans notre bibliothèque, il a fait son temps, il n'est plus d'actualité au niveau de son contenu, donc là on prend la décision de l'enlever. Parfois c'est des lecteurs, les lecteurs aussi parfois arrivent avec un livre et sont choqués du contenu et qu'ils ne trouvent pas normal d'avoir ça, donc c'est vrai que parfois nous on se retrouve dans des situations où c'est presque qu'on doit justifier notre politique. Oui. Et puis ben, parfois on est là, ben oui, c'est vrai, il nous est passé sous les yeux, on savait peut-être pas qu'on avait ce livre, on était plus conscient, et puis effectivement, vous avez raison, c'est plus d'actualité, ou voilà, donc on l'enlève, et parfois on est là, nous on a eu des soucis, c'était avec la section sur la sexualité à l'espace jeunesse, où une mère était scandalisée, en fait, que ses enfants puissent avoir accès à des livres, alors qui sont adaptés pour leur âge, mais nous on part du principe qu'on n'est pas responsable de ce que les enfants lisent et de ce qu'ils voient. Ils viennent à la bibliothèque, s'ils sont sur leurs parents, les parents sont quand même responsables.
D'accord, donc les enfants restent sous la responsabilité des parents.
Voilà. Ouais. Nous, en fait, on peut, s'ils veulent prendre un livre qu'on estime qui n'est pas de leur âge, on peut leur dire, moi je pense que c'est pas de ton âge, mais s'ils veulent quand même le prendre, et puis qu'après les parents ne sont pas d'accord, la prochaine fois, venez avec vous. Mais à un moment, on peut se positionner, mais... on ne peut pas interdire.
Bien sûr.
Voilà, ça rejoint peut-être avec le Mein Kampf, mais je pense qu'il y a des. Il me semble que pour le Mein Kampf, il y a peut-être encore des restrictions quand même.
Ouais. Ouais, alors nous, ici, à la Bibliothèque du Peuple, effectivement, on fonctionne avec des notices. Et il y a certains livres, notamment par exemple les revues Cosette, où on considère, parce qu'on annonce que l'on est une bibliothèque. Oui, voilà, alors un petit peu engagée, ou en tout cas pas neutre, mais on ne le fait pas pour. C'est pas pour publiciser une chose, c'est pour prévenir, en fait, et c'est une forme de pédagogie. Mais effectivement, les donatrices et donateurs qui ont, et l'équipe de personnes qui sélectionnent les livres ici, les périodiques en l'occurrence, trouvent que dans ce magazine-là, qui est un magazine féministe, il y a parmi, à l'intérieur, quand même des aspects qui sont un petit peu problématiques, et du coup, on l'annonce par une notice en disant, voilà, c'est un livre qui est mis à disposition de tout le monde, sachez que voilà, votre esprit critique fera le travail, etc., etc. On a ça avec quelques livres également, typiquement Choc des civilisations, ou des livres un petit peu que l'on considère comme délicats. Mais après, nous, effectivement, on a fait la sélection et on n'a pas de livre, disons, typiquement le Mein Kampf, nous, on ne le prendrait pas, on ne le sélectionnerait pas. Mais bon, c'est un autre type de bibliothèque associative et tout et tout. Donc d'accord, on a bien compris concernant les livres tabous qu'a priori, eh bien, il y a cette section en fer qui contient les documents délicats. Et puis qu'il reste quand même à disposition des gens, mais voilà, avec une certaine... enfin, vous faites attention en tout cas à ce qui ne tombe pas dans toutes les mains.